Bien, bonjour tout le monde. Donc moi, je vais m'intéresser à la Normandie, puisque c'est mon terrain de recherche. Donc c'est un travail que je mène avec ma collègue Estelle depuis 5 ans. Donc l'objectif, c'est d'essayer de raconter l'aventure punk en Normandie. Donc le chantier est vaste, hein. Donc voilà, quelques écrits, mais s'il n'y a déjà rien sur la France, vous imaginez bien que sur la Normandie, il n'y a pas grand-chose d'écrit, même par les journalistes. Donc, le but, c'est d'ouvrir un chantier autour de l'histoire du punk en Normandie. Donc, en tant qu'historien, on se base sur des archives, sur des sources. Alors, c'est quoi les sources sur lesquelles on se base? Tout d'abord, c'est les acteurs, quelles que soient les générations, de la première à la génération actuelle. Donc là, j'ai pu mener à peu près une trentaine d'entretiens avec différents acteurs, donc principalement des musiciens. On a aussi, depuis quelques années, une mémoire vivace, hein, notamment grâce au site internet, et je parlerai bien évidemment pour Le Havre, celui de Laurie Rockin' Le Havre, hein, qui est une mine d'or pour le chercheur, avec toutes les photos, etc. Des expositions à Caen, le 106, il y avait une exposition à Rouen sur le punk à Rouen. Des rééditions de vinyle, je pense au label Mémoire Neuve, qui a réédité un certain nombre de groupes canés, qui n'avait pas sorti d'album. Donc voilà, il y a toute une activité autour de cette mémoire du punk. Il y a des archives locales et régionales. Alors, la presse ou les presses régionales et locales. Des archives audiovisuelles à l'INA. Vous avez la possibilité de visionner un certain nombre d'émissions de télé qui parlent à un moment donné du punk. Là, je parlerai par exemple de l'émission Rockin' Chair, qui est l'émission de FR3 Normandie qui a mis à l'honneur un certain nombre de groupes à vrai. Et aussi, les archives privées, c'est quand on va rencontrer des acteurs, souvent, ils ont gardé un certain nombre de documents, alors que ce soit des photos, des cassettes, des affiches, des vidéos, donc ils ont gardé depuis, selon les générations, et donc ils savent pas trop quoi faire de toute cette paperasserie, hein. Donc on récolte, on numérise, etc. Donc voilà, il y a quand même un travail de rencontre, de collecte, etc., qui fait qu'à partir de là, on peut... monter ce projet. Donc voilà, les deux sites, si on prend Rouen, c'est l'Explosion Rock de Claude Levieux, et puis le site de Laurie, hein, si vous voulez un certain nombre d'informations ou de photos. Il y en a un sur Caen, qui s'appelle les Tataves, alors qui est moins actif, mais on trouve un certain nombre, moi j'en ai posté aussi, un certain nombre de photos qui est lié à cette culture punk autour de Caen. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le punk il s'est développé en Normandie. C'est la thèse que je vais développer, c'est de dire que une des spécificités normandes, c'est que le punk est apparu très tôt. Et je vais essayer d'expliquer, à travers toutes ces rencontres, tous mes travaux, quels sont les facteurs qui ont pu amener au fait que Rouen, et Le Havre aujourd'hui, mais Caen aussi, est une région où le punk est apparu par rapport à d'autres régions qu'on a visitées, par exemple le sud de la France, où les temporalités sont un peu différentes. Le premier point qu'on peut mettre en avant, c'est la présence américaine, enfin une sorte de cette présence qui va diffuser à un moment ou à un autre une culture rock. Alors, si je parle de là, 40-46, bon, c'est plutôt le port transit, mais il y a des Américains, donc il peut y avoir des GI qui écoutent du rhythm and blues, du blues, etc., donc ils amènent aussi leur culture, mais surtout la période qui marque cette culture américaine en Normandie, c'est pas Le Havre, c'est Évreux, avec sa base américaine, où il y a un certain nombre de groupes qui viennent jouer, et qui va donner naissance ensuite à des groupes locaux qui vont jouer ce style de musique. Un des précurseurs, Little Bob avec les Apaches, hein, qui monte son groupe rock américain. Vous avez plusieurs groupes qui vont se monter à ce moment-là, qui jouent dans les bals, qui jouent dans les casinos, et donc qui diffusent cette première culture rock. Donc, ce qui fait que le territoire a déjà une sensibilité autour de rock. Au Havre, c'est le concert de Bill Haley en 58, hein, qui finit avec les sièges cassés et que la presse traite de voyous tous les spectateurs. Et à Évreux, il y a aussi un site qui s'est monté. Il y a eu une expo aussi à la médiathèque qui a été mise en place par Laurent Niki sur Évreux Rock Story. Donc voilà, il y a toujours cette mémoire qui se met en avant. Autre élément qui est peut-être pas tangible en soi, c'est l'identité d'une ville. Et Le Havre, particulièrement, ville bombardée, reconstruite avec une nouvelle identité, Et donc, il faut, dans cette identité, dans cette reconstruction, eh bien, le rock peut être un moyen de retrouver une identité, notamment grâce à Little Bob et Little Bob Story. Le fait que les groupes anglais viennent avec le ferry au Havre, donc viennent jouer avant d'aller à Paris, on fait aussi une ville transit pour un certain nombre de groupes. Il y a aussi l'image de la ville, quand on écoute les différents reportages ou documentaires qui ont lieu sur soit d'époque, les enfants du rock au Havre, ou soit les différents documentaires, c'est une ville dégueulasse, j'ai pris ce qui est dit, hein, une ville dégueulasse, une ville triste à mourir, cradingue, et Dominique Caumont le dit dans Les Enfants du Rock, on vit ici, on vit avec, et la ville nous donne aussi cette identité dans notre musique. Donc vous voyez cette image, ce qui n'est pas forcément le cas à Rouen, avec une autre approche de la ville. Donc Le Havre devient une capitale du rock et du punk, notamment, alors, bien évidemment, la spécificité géographique, la proximité avec l'Angleterre fait qu'on peut écouter les émissions anglaises de la BBC Radio 1, notamment les émissions de John Peel. Il y a tout un ensemble d'échanges culturels, que ce soit dans le cadre scolaire ou avec les jumelages. J'ai un ami qui est à Vray, son premier souvenir de l'Angleterre, il est au lycée, il arrive, alors je sais plus si c'est Brighton, il arrive à Brighton, la première chose qu'il voit de l'Angleterre, c'est une grande baston entre les mods et des punks. Et ça l'a marqué, voilà. Il arrive de sa Normandie, il trouve une grosse bagarre, donc ça l'a marqué. Hein. Les liaisons maritimes peu chères, alors il y a Le Havre, mais bien sûr il y a Dieppe, ensuite il y aura Ouistreham, Cherbourg, ce qui fait que tous les acteurs que j'ai pu rencontrer ont tous à un moment donné fait un voyage en Angleterre. Alors que ce soit en 77, mais aussi par la suite, on va en Angleterre, on va voir des concerts, on va acheter des disques, on va rencontrer des gens, etc. Donc il y a toute cette proximité qui fait que le punk n'est pas si loin. Autre point important, c'est que Le Havre, là, encore une spécificité, va accueillir très tôt des groupes punk. Grâce, je reviendrai à ces salles, mais à partir de 76, défilent un certain nombre de groupes. Alors, il y a le pub rock, bien évidemment, avec Dr. Feelgood, mais on va trouver ensuite les Stranglers, qui viennent en 76, les Ramones en 77, avec les Talking Heads, Dr. Feelgood, les Jam en 78, les Damned en 78. Donc, il y a tous ces groupes qui viennent au Havre, ensuite qui vont éventuellement à Rouen, mais surtout à Paris. Donc le fait que, dans cette ville, très tôt, des groupes reconnus vont passer et bien évidemment vont attirer un certain nombre de jeunes spectateurs qui vont se familiariser aussi avec cette musique. Autre facteur important, les lieux de musique. Les magasins de disques. Donc, alors là, je parle d'une période, 76-80, je ne parlerai pas de... Mais voilà, les deux grands magasins de disques qui vont diffuser cette musique. Alors, je commencerai par Rouen, Mélodie Massacre, d'accord, Lionel Hermani, Eric Tandy. Lionel Hermani est un grand ami de Philippe Garnier qui va ouvrir Crazy Little Things. Ensuite, avec Jean-Marc Pelletier, Yves Guimot, et des liens aussi avec Rouen, qui sera le manager des docs. Donc les lieux, les boutiques deviennent des lieux où se diffuse cette musique. Encore une fois, dans le reportage de Jean-Marc, il y a Dominique Caumont qui dit « Je vais à Crazy Little Things, je veux acheter un disque de Chic Corea et je ressors avec l'album Rock Power de Stooges. » Et ça, forcément, ça change un petit peu. Voilà. Donc ce sont des lieux où on rencontre des gens, ce sont des lieux qui vont faire la promotion des concerts, on vient acheter des tickets, où on diffuse. Alors, la différence avec Mélodie Massacre, c'est que Mélodie Massacre devient aussi producteur de disques. Premier 45 tours des Dogs, premier 45 tours des Olivenstein, d'accord ? Hermani devient producteur de musique. Mais ce sont des lieux où se diffuse cette musique, donc Mélodie Massacre. Autre point important qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si des groupes rock'n'roll existent depuis les 60s, à un moment donné, la particularité aussi de la Normandie, c'est qu'il va y avoir deux groupes qui vont ouvrir, en gros, qui vont défricher, qui sont Little Bob Story, avant, alors Little Bob, Red Devils, avant de venir Little Bob Story, pour Le Havre, et pour Rouen, les Dogs, qui vont voilà, tourner toute la Normandie. J'ai des archives de Little Bob qui vient jouer à la MJC de Lisieux. Donc vous voyez, le tour des MJC, le tour des casinos. On joue aussi ensemble Little Bob Story, les Dogs. Et les Dogs, à un moment donné, vont aussi ouvrir la porte aux The Liebenstein et à d'autres groupes. Et Little Bob, pareil, avec d'autres groupes à vrai. Donc voilà, c'est des grands frères qui font, qui défrichent. Et à un moment donné, vont donner aussi envie à d'autres groupes de jouer. Je vous ai mis quelques réflexions à vrai. Hein. Autre point, c'est que, encore une fois, une des particularités du Havre, c'est aussi ses équipements. C'est-à-dire les salles qui vont accueillir ces premiers concerts. Alors, les plus connus seront la salle Franklin et la salle François Ier, mais il y a tout un, voilà, d'autres salles qui peuvent accueillir ces différents concerts. Ce que n'a pas Rouen, par exemple. Rouen, le studio 44, c'est 79, voilà, qui deviendra l'Exo 7. Voilà. Mais à Rouen, il y a déjà des salles qui peuvent accueillir. Il y a aussi, alors, ça sera à creuser, si vous avez des infos, je suis preneur. Il y a aussi le rôle des associations qui, sous couvert notamment les associations l'association sportive des municipaux, qui organise sous couvert de l'association sportive les premiers concerts punk. Une espèce de garantie auprès de la mairie. Donc il y a des équipements, il y a des endroits où on peut jouer. Il y a aussi une particularité, le fait que la ville soit communiste, avec derrière tout le discours autour de l'éducation populaire, l'éducation pour tous, la culture pour tous, une volonté d'impliquer la jeunesse, c'est la création des CLEC, les CLEC qui donneront accès à, notamment à des groupes de la deuxième génération, je pense à un groupe, j'ai rencontré les Hateful qui ont commencé au CLEC de l'heure, parce qu'il y avait un atelier musique actuel. Donc ça facilite aussi cette pratique, il y a des matériels, il y a une batterie, il y a des amplis, etc. La ville organisera un grand festival dont il y a une vidéo de une trentaine de minutes hein, sur YouTube, Rock au Vélodrome, où on voit un certain nombre de groupes qui sont représentatifs de la diversité musicale, puisqu'il y a un groupe de reggae ska, il y a un groupe de rockabilly, il y a Little Bob Story, il y a Teenage Riot qui était plutôt punk. Et, voilà. Et ça montre aussi cette vitalité autour de ce projet, et notamment qui donnera naissance à la salle François Ier, comme salle. Et, on le retrouve aussi dans le reportage avec Dominique Comon qui déjà en 80 parle de cette salle permanente pour le rock en général. Point important aussi, c'est le rôle de la presse locale. On peut paradoxalement dire que cette musique contre-culturelle avec son look, les épingles, etc., soit complètement oubliée par la presse traditionnelle. Eh bien non. On trouve dans la presse alors régionale, ici je vais parler de Ouest-France et de Paris-Normandie, mais si je prends la presse locale sur Lisieux, le Pays d'Auge, dans le Pays d'Auge, hein, qui est vraiment le canard du coin, voilà, on a déjà des articles en 77-78 sur des groupes qui vont jouer du punk rock. Donc il y a cette presse qui va relayer cette musique, alors, et notamment les groupes qui viennent jouer. Donc vous voyez là, les Stranglers, il y a un certain nombre d'articles dans les journaux qui relatent ce concert qui, a priori, attirait à peine une centaine de personnes. Les Stranglers, moins. Alors moins encore, vous voyez. Mais il y a quand même 4 ou 5 articles qui présentent le groupe et qui fait le compte-rendu du concert. Donc c'est quand même impressionnant par rapport à cette musique qui n'est pas encore connue. Voilà, vous voyez l'article avec la photo. Pour quand Rouen, pardon, c'est Clash. Donc c'est le fameux concert de Clash le 25 avril 1977, premier concert en France de Clash, avant d'aller à Paris. Donc pareil, il y a dans Paris-Normandie, il y a un certain nombre d'articles qui présentent le groupe, qui il est, etc. Alors, avec plus ou moins de vocabulaire adapté, hein. Il y a même des fautes d'orthographe. Les Ramones, c'est les Talkinettes, c'est pareil. Ils viennent, il y a des photos, il y a des articles. Vous voyez, un grand article qui présente le groupe, etc. Donc, la presse, voilà, les dames aussi avec les Liebenstein. Ici, je vous ai mis, alors voilà, Ouest-France. Ouest-France, 7 octobre 1977, on va parler pour la première fois des punks. Alors, Ouest-France se questionne. Hein. qui sont ces punks qui viennent d'outre-Manche, se croire moche et en être fier. Il y a une interview de Patrick Odeline, vous voyez. Donc, pour la première fois, voilà, pour avoir épluché tout Ouest France 77, c'est le premier article, et je crois que c'est le seul, qui traitera du punk, voilà, octobre 77. Donc le mouvement est déjà bien installé en Angleterre, il se diffuse en France. Mais voilà, on se pose les questions, et ça, c'est en première page, hein. Donc ça vous montre aussi, voilà, à un moment donné, comment la presse va essayer de parler de cette musique. Toujours dans cet vecteur médiatique, je vous parlais de Rockin' Chair. Donc l'émission Rockin' Chair, elle est créée en 1982, fin 82. Elle est présentée par Jean-Loup Janère. Et vous voyez l'affiche, on recherche des groupes, etc. Et quand on regarde, j'ai épluché, j'ai regardé tout, visionné tous les numéros de Rockin' Chair, donc de 82 à 89. J'ai répertorié tous les groupes normands qui sont passés. Et voici la liste des groupes qui sont passés, enfin, les groupes havrais, qui sont passés. On voit quand même une présence assez régulière des trois groupes voilà, emblématiques, on va dire, du Havre, les City Kids, Fixed Up et Little Bob Story. Avec, vous voyez, spécial Australie, donc il y a des interviews, etc. On passe deux, trois titres du groupe. Il y a encore des vidéos hein, sur YouTube, voilà. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on voit aussi ces groupes à la télévision. Et je me souviens très bien du passage de Fixed Up avec leur titre Better Things, enfin, je ne sais plus le titre exact. Voilà, voilà. Merci Laurie. Et donc voilà, ça marque aussi ces passages. Et donc tous ces facteurs font qu'il va y avoir une prolifération de premiers groupes, aussi bien, alors là je vous ai mis Le Havre, ça vous connaissez, hein, donc Teenage Riot, alors Vitriol Gang, Ox, Sexual Tam, Grosse, alors Catel, on va dire, défini comme punk rock, d'accord, puisqu'on sait que la culture rock, voilà, est plutôt présente. À Rouen, c'est les Olivenstein, Eric Tandy, Action Joe, par exemple, à Pont-Audemer. À Caen, particularité, on trouve beaucoup plus de groupes vraiment revendiquant le punk. Bye Bye Turbin se veulent les Clash français, vous voyez. Laxative 126, Break Up, RAS se veulent vraiment punk, d'accord, type Sex Pistols. Les Vegetators de Lisieux, eux, sont plutôt punk rock à la Little Bob Story, mais un peu plus, chante en français, 5 minutes, et un peu plus revendicatif, notamment envers Sainte-Thérèse. Vous voyez, un certain nombre de titres anti-Sainte-Thérèse dans la ville de Lisieux, on peut comprendre. Voilà. Et donc, ça donne aussi l'arrivée à d'autres groupes, hein. Les Lords, par exemple, qui joueront. Donc, je vous ai mis quelques illustrations voilà. Donc, ça, c'est les Vegetators de Lisieux. Donc, ça, la photo qui est dans une compilation, c'est Break Up, un des groupes canés. Ça, c'est Bye Bye Turbin, en concert. Action Joe, c'est Pont-Audemer, dès 78. Donc, là, celui qui est au milieu, c'est Claude Levieux. C'est lui qui est à l'origine du site Rouen, l'explosion punk, rock, pardon. Grossesse Never. Alors, j'ai pris des photos sur le site de Laurie. Hein, je vais demander la permission. Il m'a autorisé, puisque je n'avais pas. Donc, Teenage Riot. Hein. S'il y a des groupes, il y a des concerts. Donc là, deux affiches de festival à Caen, 78 et 79, où ce sont des festivals anti-quelque chose. Donc là, c'est contre la ville. Et là-bas, c'est contre le racisme, comme il peut se passer en Angleterre. Il y a aussi, vous voyez, des groupes havrais et rouennais qui peuvent jouer ensemble, mais ça, c'est une question que je poserai tout à l'heure, hein, sur la relation entre Le Havre et Rouen, qui à un moment était un peu conflictuelle, on va dire. Une affiche, voilà. Et il y a aussi de la production. Alors, peu, mais il y a de la production. 2,45 tours de Bye Bye Turbin, 79-80, Olivenstein, 79, et Checkmate, qui est un groupe canet, 79. Édité et produit par Lionel Hermani et Mélodie Massacre. Il y a aussi des généalogies croisées. Alors, je vous ai mis juste... Donc, vous voyez, Break Up, il y a aussi vers Rouen, de Caen à Rouen, et aussi de Caen au Havre. Le bassiste ou le guitariste Laurent Locher va jouer avec Psych Out, le groupe havrais. Donc, vous voyez, il y a aussi des passages entre les différentes villes. Et pour terminer, alors là, je m'arrête, vous voyez, 80, hein, cette génération, première génération, va soit arrêter ou soit changer de style de musique. Mais on va retrouver une vitalité, notamment à vrai, ça va être vraiment l'âge d'or là avec Fixed Up, Backslider, City Kid, Les Hatefuls, Bad Brains, etc. Des généalogies encore, hein, des concerts croisés et aussi l'apparition et le développement des fanzines. Alors, Valérie en parlera tout à l'heure, Aliénation par exemple, à partir des années 80. Bébé Démon, je l'ai noté, comment Laurie vient de recevoir deux exemplaires de Bébé Démon. Donc vous voyez, il y a tout l'apport aussi de ces nouveaux fanzines, des labels et des magasins, notamment ici au Havre avec Closer, et bien évidemment le rôle des radios libres. Donc je vous ai mis juste, voilà, pour finir, Aliénation, Jesus Crimes, Contagion, un petit peu près de Rouen, à Neuchâtel-en-Bray. Et voilà, s'il y a aussi le lien entre fanzine et organisation de concerts, ouais, concert au CLEC, c'était ça, hein, CLEC de l'heure, ouais, avec les Hatefuls et Exposes organisés par Valérie, ici présente. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Admiratif, le travail qui